Aujourd'hui, dans Réponse avec Belle Scanlay.
Dieu le sait. Il vous voit. Et il tient la sagesse en réserve pour vous. Si vous l'écoutez et agissez en conséquence, elle vous guidera. Tandis qu'elle vous guidera, elle apportera également de grandes bénédictions temporelles et éternelles dans votre vie. Encore une fois, la chose à retenir est que nous devons écouter sa sagesse. Nous devons l'entendre. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Je vous invite à ouvrir le livre des Proverbes. Je vais vous partager un court message et vous savez que ce terme est relatif, un court message tiré du livre des Proverbes. Proverbe 1:5. Commençons par la prière. Père Céleste, donne-nous la compréhension. Nous t'accordons toute notre attention. Nous nous tournons vers toi et nous écoutons. Tu peux inscrire sur notre cœur ce que tu désires. Apporte le réconfort, apporte le changement, apporte l'encouragement, apporte ce dont nous avons besoin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Proverbe 1:5 dit « Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. » C'est l'un des principaux attributs d'une personne sage que l'on trouve tout au long du livre des Proverbes. Elle a l'esprit et le cœur ouvert. Elle écoute. Elle réfléchit. Elle recherche et elle apprend. En revanche, le fou n'écoutera pas. Selon les Proverbes, le fou ne s'intéresse qu'à son propre point de vue. Il ne s'intéresse qu'à sa propre opinion. Il n'écoutera pas. L'esprit d'un fou est un peu comme du ciment bien mélangé et durci. Une personne sage entendra alors qu'un fou n'entendra pas. Je voudrais vous lire quelques versets du chapitre 2 du livre des Proverbes pour vous donner une idée de ce dont Dieu parle lorsqu'il dit d'écouter et de rechercher sa sagesse. Proverbe 2, 1 à 7. « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Remarquez qu'il est dit que Dieu tient la sagesse en réserve pour les hommes droits. Il ne nous la cache pas, il l'a mise en réserve pour nous. Si nous cherchons la sagesse, si nous écoutons, si nous la recherchons, le Seigneur nous donnera la sagesse. Il nous donnera la sagesse qu'il a mise en réserve pour nous. Il accomplit toujours sa parole en son temps. Écouter sa sagesse et agir en conséquence porte des fruits variés. Toutes ces choses se trouvent dans les Proverbes. La joie en est un des fruits. Un autre fruit qui en découle est la bénédiction de la famille. La sécurité, la santé, la prospérité, la promotion, toutes ces choses arrivent lorsque nous écoutons et appliquons la sagesse de Dieu. Ce à quoi vous êtes confronté en ce moment n'a pas pris Dieu par surprise. Il tient la sagesse en réserve pour vous. Si vous venez d'apprendre que votre conjoint a été infidèle et que vous êtes effondré, il tient la sagesse en réserve pour vous. Si vous êtes entre deux boulots, il tient la sagesse en réserve pour vous. Si vous êtes aux prises avec la peur ou la dépression, Dieu a de la sagesse pour vous. Il vous offre une issue. Vous avez peut-être une idée ou un rêve et vous ne savez pas par où commencer. Dieu le sait. Il vous voit et il tient la sagesse en réserve pour vous. Si vous l'écoutez et agissez en conséquence, elle vous guidera. Tandis qu'elle vous guidera, elle apportera également de grandes bénédictions temporelles et éternelles dans votre vie. Encore une fois, la chose à retenir est que nous devons écouter sa sagesse. Nous devons l'entendre. Ce message est très simple. Il consiste en quatre choses. Si vous les écoutez, vous y trouverez la sagesse. J'en ai fait un acrostiche. C'est très simple. Wise, sage en anglais, W-I-S-E. Si nous écoutons ces quatre choses, elles nous permettront de trouver la sagesse de Dieu. La première est W. Nous devons écouter sa parole, Word. Nous devons écouter la parole de Dieu. Relisons Proverbes 2, 1 et 2. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, Dieu nous donne la sagesse par sa parole. Lorsque Moïse s'est présenté devant les enfants d'Israël, Dieu lui a donné des commandements et des lois. Il avait donné sa parole à Moïse qu'il a transmise au peuple. Voici ce que Moïse leur a dit en Deutéronome 4, 5 et 6. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Moïse a dit, « Écoutez, prêtez attention à cette parole que je vous ai donnée de la part de Dieu est votre sagesse. » En Luc 11, 49, Jésus a déclaré que la parole écrite de Dieu était la sagesse de Dieu. Il y a quelques années, un homme qui fréquentait l'église depuis quelque temps est venu me voir. Je l'avais croisé quelques fois, je n'avais eu que quelques brèves interactions avec lui, mais il voulait me parler. Il est entré dans mon bureau et il s'est assis désemparé. Il m'a parlé d'un problème assez important qu'il rencontrait. Il m'a dit, « Pasteur, j'ai supplié Dieu de me parler, j'ai supplié Dieu encore et encore de me parler, il ne me dit rien et je ne sais pas quoi faire. » J'ai été très surpris parce que la question qu'il posait était abordée au moins 4 ou 5 fois à différents endroits du Nouveau Testament. C'était vraiment très clair. Il disait, « Dieu ne me parle pas. J'ai supplié Dieu à plusieurs reprises. » Je lui ai donc demandé, « Je ne veux pas vous offenser, mais avez-vous une Bible ?» Il m'a répondu, « Bien sûr que oui. La lisez-vous ? » En toute honnêteté, non, je ne la lis pas. D'accord. Je suis allé chercher un Nouveau Testament sur l'étagère, je l'ai ouvert et nous avons consulté 3 références différentes qui répondaient parfaitement aux questions qu'il se posait. Dieu a dit très clairement comment y répondre et ce qu'il fallait faire. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit, « On dirait que Dieu a déjà traité de mon problème, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « Oui, en effet. » Imaginez que vous ayez créé une entreprise et que tout aille pour le mieux. Elle fonctionne à plein régime, elle est très productive, elle aide les gens, les employés sont comblés et vous aussi. Vous décidez de faire un long voyage. Avant de partir, vous rédigez un manuel très complet qui répond à toutes les questions et tous les problèmes qui pourraient survenir. À votre retour de voyage, vous êtes choqué lorsque vous arrivez en voiture à votre lieu de travail car les lumières du bâtiment sont éteintes. Vous entrez et c'est le désordre, le plus total. Les employés se battent, les machines sont toutes hors service. Aucune production n'est en cours. C'est un véritable désastre, c'est le chaos total. Vous convoquez les leaders et leur demandez « Que se passe-t-il ? Comment avez-vous pu laisser faire ça ?» Ils répondent « Vous ne nous avez jamais appelés, nous attendions que vous nous appeliez pour nous dire quoi faire. » Vous leur répondez, « Je vous ai donné un livre. » Je pense que nous agissons parfois ainsi. Nous implorons Dieu de nous montrer ce qu'il faut faire. Il dit, « Je t'ai donné un livre. » Et soit dit en passant, j'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas décroché. Quand Dieu appelle, il appelle votre esprit. C'est là qu'il nous parle. Les Proverbes disent « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel ». Dieu vous éclaire et vous guide au travers de votre esprit. Le livre des Romains dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit. Pierre parlait de l'esprit de l'homme comme de la parure cachée du cœur. Malheureusement, la plupart des chrétiens sont étrangers à leur propre cœur. La plupart des chrétiens vivent dans le royaume mental en entendant toutes sortes de bruits intellectuellement et mentalement. Ils vivent dans le monde physique, mais ils ont très peu de contact avec le monde spirituel. Lorsque Dieu parle à ses enfants, il s'adresse à notre esprit. Donc ce n'est pas que Dieu n'appelle jamais, c'est que la plupart des gens ne décrochent pas parce que le téléphone est ici. Il n'est pas là-haut, ni là-dehors. Il est dans notre esprit. Mais cela mis à part, il nous a donné un livre. Nous devons d'abord écouter la sagesse de Dieu dans sa parole. La deuxième lettre est I. Nous devons écouter l'intégrité. Écoutez l'intégrité. J'aimerais vous lire Proverbes 11, 3. L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres causent leur ruine. L'intégrité des hommes droits est leur guide. Ils sont guidés par l'intégrité. Job a dit des choses profondes au sujet de l'intégrité. Toutes les traductions sont bonnes, mais j'aime beaucoup celle de la seconde 21. Je vais donc vous la lire. Job a dit en Job 27, 3 à 6, « Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront aucune injustice, ma langue ne prononcera rien de faux. Je ne risque pas de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun jour de ma vie. » Le roi David a dit ceci en Psaume 26, 11. « Mais moi, je marche dans l'intégrité. » Marcher ici signifie avoir un style de vie. Il s'agit de la manière dont vous vous conduisez dans vos relations, dans vos affaires et dans tout le reste. Mais moi, je marche dans l'intégrité. Une fois que nous avons pris la décision de marcher dans l'intégrité et d'être guidés par l'intégrité, les trois quarts des autres décisions que nous devons prendre dans la vie sont automatiquement déjà prises. Vous n'avez pas besoin de prier à leur sujet si vous choisissez simplement de marcher dans l'intégrité. En d'autres termes, si cela m'amène à violer mon intégrité, la réponse est non. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir ou de prier à ce sujet. La réponse est déjà donnée. La décision est prise. Si cela m'attire des ennuis, si cela me rend impopulaire ou si cela nous met mal à l'aise, moi ou vous, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Disons que vous organisiez un vide-grenier. Vous venez d'acheter une nouvelle table de cuisine et allez donc vendre l'ancienne, qui est le joyau de tous les objets que vous allez vendre. C'est une très belle table. Vous faites paraître une petite annonce dans le journal qui dit « Vide-grenier, 8h du matin ». Bien sûr, il y a toujours des gens qui arriveront à 6h30 ou 7h. Ils veulent être les premiers à arriver, ils sont futés. Vous êtes donc en train de tout préparer et à 7h05, une voiture arrive et un homme en sort. Il se dirige immédiatement vers la table et dit « C'est une belle table. Pour combien la vendez-vous ? » Nous pensions 200 $. « C'est un peu cher. Je vous l'achète pour 100 $. »« Non, je ne peux pas la vendre pour 100 $. Je vous la prends pour 125. »« Non, vous savez quoi ? Je vous la laisse pour 175. C'est une belle table. Je veux bien vous l'acheter pour 150. Vous acceptez ? » ?»« C'est d'accord, marché conclu. » Vous vous serrez la main et il dit « Je n'ai pas apporté autant d'argent, je ne m'attendais pas à dépenser autant. Je vais chercher l'argent, je reviens tout de suite. Nous avons conclu un accord, elle est à moi. » Vous dites oui. Alors qu'il repart, une autre voiture s'arrête. Un homme en sort et se dirige vers la table en disant « Belle table, c'est combien ? Désolé, elle a déjà été vendue. Vous plaisantez, pourquoi est-elle encore là ?» L'acheteur est allé chercher l'argent, il ne l'avait pas sur lui. Combien l'a-t-il payé ? 150 $. 150 $? Je vous en donne 175 $ tout de suite. Non, j'ai déjà donné mon accord et ma parole. Je l'ai vendu à cet homme pour $150. Je vous en donne $200. Non, vous ne comprenez pas. Même si vous m'offriez $2000 pour la table, elle n'est pas à vendre. Mon intégrité n'est à vendre à aucun prix. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir ni de prier à ce sujet. Je prêchais dans un autre état. Un homme que j'avais rencontré et qui était en fait le président d'une grande entreprise savait que je serais là et m'a demandé si je pouvais aller jouer au golf avec lui. Nous sommes donc allés jouer et il est très compétitif. Au troisième trou, il a commencé à tricher. Il ne pensait pas que je l'avais vu frapper sa balle à 1 mètre dans le rough. Terrible coup, on voyait à peine le dessus de sa balle. Il l'a déplacé très rapidement sur le fairway et avait maintenant un lie parfait. 2 trous plus tard, il recommence. Le trou suivant, il recommence. Cela a duré toute la journée. À la fin de la partie, il additionne les scores et dit « Bayless, on dirait que je t'ai battu de quelques coups ». Le Saint-Esprit était vraiment avec moi. Je me dis, oui, il y avait un esprit avec toi, mais il n'était pas saint. Certains diront que ce n'est pas grave, et je suis d'accord, ce n'est pas grave. Mais le fait est que vous ne pouvez pas compartimenter votre vie. C'est pourtant ce que nous faisons tout le temps, nous compartimentons. Mon ami, pour Dieu, votre vie n'est pas compartimentée, c'est un tout. Même si vous souhaitez fermer ce petit compartiment, c'est impossible. Il s'infiltre dans d'autres domaines. Quelques mois plus tard, cet homme a violé son intégrité de manière beaucoup plus grave. Il a ruiné sa réputation et a failli détruire son mariage. Laissez l'intégrité vous guider. Écoutez l'intégrité. La lettre suivante est S. Elle signifie que nous devons écouter Shalom, la paix. Proverbe 3:13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Le verset 17 parle de la sagesse. Ses voies, les voies de la sagesse, sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. C'est le mot hébreu shalom. Tous les sentiers de la sagesse sont des sentiers de paix. Pas quelques-uns, pas la plupart, tous les sentiers de la sagesse sont shalom. En d'autres termes, si vous marchez sur un sentier, que vous pensez à faire quelque chose, que vous priez pour cela et qu'il s'agit d'un sentier de la sagesse de Dieu, pour vous, alors votre cœur sera rempli de paix. Cela ne veut pas dire que la peur n'assaillira pas votre esprit. Cela ne veut pas dire que les doutes ne viendront jamais à votre esprit. Mais lorsque vous consacrez du temps à prier, à vous tourner vers Dieu, shalom sera là, s'il s'agit d'un sentier de la sagesse de Dieu. Il est dit de la sagesse que toutes ces voies sont des voies agréables. Le mot hébreu pour agréable signifie littéralement être poli, être lissé, par opposition à quelque chose qui a un bord irrégulier ou un bord rugueux. L'autre jour, j'ai voulu mettre une chaussette. Je n'avais pas réalisé que l'ongle de mon pied était fendu sur le bord. En voulant enfiler ma chaussette, mon ongle d'orteil s'est coincé. J'ai réessayé, j'enfile ma chaussette, mais elle se coince à nouveau à mon orteil. C'est l'idée. Si vous priez à propos d'emprunter un certain chemin, mais qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous bloque, qui vous interpelle, ce n'est pas grand-chose, mais quelque chose vous dérange. Vous feriez mieux de prier davantage, parce que les voies de la sagesse sont des voies agréables. Elles sont bien polies et lisses, car Dieu parle à notre cœur. Tous les sentiers de la sagesse sont des sentiers de paix. J'ai déjà raconté cette histoire qui s'est déroulée il y a des années. Des amis m'ont demandé de rencontrer des hommes d'affaires. Ces hommes avaient mis en place un système pour les églises. Il s'agissait d'un investissement pour aider à bénir les églises. L'adhésion minimale était $250,000, mais les retours sur investissement étaient absolument incroyables. Ces hommes d'affaires sont donc venus m'expliquer tout cela. Ils m'ont demandé si j'acceptais de le faire. Alors qu'il me parlait, j'essayais d'enfiler cette chaussette, mais quelque chose coinçait. Ce n'était qu'une petite chose, mais quelque chose me dérangeait à l'intérieur. Ils sont revenus le lendemain et je leur ai dit, « J'espère que je ne vous ai pas fait perdre votre temps, mais je ne vais pas le faire. » Ils ont alors vraiment tenté de me convaincre. J'ai dit, je suis désolé, j'espère que tout se passera bien pour les autres, mais je ne peux pas le faire, je n'ai pas la paix. Ils sont partis en colère. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'escrocs. Ils ont été emprisonnés. Ils avaient volé environ 100 millions de dollars à ces églises. Je ne pense pas que les pasteurs ou les églises aient récupéré leur argent. Certains d'entre vous prient pour certaines choses, vous devez écouter. Tous les sentiers de la sagesse sont des sentiers de paix. Colossiens 3,15 dit « Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. » Que la paix de Christ règne dans votre cœur. Le mot grec traduit par « régner » signifie littéralement « agir comme un arbitre ». Laissez la paix de Christ agir comme un arbitre dans votre cœur. Le rôle d'un arbitre est de dire quand vous êtes hors limite et quand vous devez arrêter ou de dire que vous êtes dans le bon, que vous pouvez continuer. Pendant que je prie, que je me penche sur la question, en restant silencieux, l'arbitre peut prendre la décision. Ce chemin est bon, tu peux continuer à avancer. Mais si quelque chose me dérange à l'intérieur, l'arbitre prend également une décision. J'aimerais vous citer ce même verset, Colossiens 3,15, de la Bible amplifiée. Il ne sera pas affiché à l'écran, alors écoutez attentivement. Et laissez la paix du Christ agir continuellement comme arbitre, en décidant et en réglant définitivement toutes les questions qui se posent à votre esprit. Laissez la paix de Dieu, la paix du Christ, agir continuellement comme arbitre, en décidant et en réglant définitivement toutes les questions qui se posent à votre esprit. Toutes les questions, c'est-à-dire votre choix de carrière, votre futur conjoint, toutes les questions. Je prends les plus grandes décisions de ma vie en fonction des décisions de l'arbitre. Si j'ai honnêtement investi mon temps, que l'arbitre a pris une décision et que j'ai la paix, je me lance. En revanche, si quelque chose me dérange à l'intérieur, je ne le fais pas. Je prends littéralement les plus grandes décisions de ma vie en fonction de la décision de l'arbitre. Nous devons écouter Shalom. Tous les sentiers de la sagesse, tous, sont Shalom. Tous. J'aimerais vous présenter 5 illustrations, mais je ne vais pas le faire. La dernière lettre est le E. Le E signifie expert. Écoutez les experts. En d'autres termes, ceux qui ont parcouru le chemin avant vous, ceux qui ont plus d'expérience que vous, ceux qui ont vécu certaines des choses auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui, ceux qui ont accompli les choses que vous vous efforcez d'accomplir. Proverbe 11,14 dit « En l'absence de directive, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. » Proverbe 15,22 « Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. » Si les conseils que les autres vous donnent sont différents de ce que vous croyez que Dieu a dit à votre cœur, priez davantage à ce sujet. Attendez la réponse de Dieu plus longtemps, car les autres peuvent nous aider à voir des choses auxquelles nous n'avons pas pensé. Mais il ne faut pas prendre certaines décisions dans le vide. Cela vous causerait des ennuis. Proverbe 18,1 dit ceci. « Celui qui se tient à l'écart, qui s'isole, cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. » L'isolement conduit à des idées folles. Si 4 ou 5 de vos amis vous disent « Qu'est-ce que tu fais avec ce type ? Il est mauvais pour toi », vous devriez peut-être les écouter. Elles voient peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Ou alors vous êtes tellement contente que quelqu'un fasse enfin attention à vous que vous contournez tous les obstacles que Dieu a mis en place. Dieu merci, il y a des conseillers. Si nous voulons être sages, nous devons écouter W, la parole de Dieu. Nous devons écouter I, l'intégrité. S, nous devons écouter Shalom. Et E, nous devons écouter les experts. Vous savez, la chose la plus sage qu'un être humain puisse faire est de s'assurer d'être en règle avec Dieu. Il n'y a rien de plus important dans cette vie que votre vie spirituelle. Ici, ce n'est que le vestiaire de l'éternité. Mon ami, c'est tellement vrai. Rien n'est plus important que de mettre de l'ordre dans sa vie spirituelle. J'ai lu l'histoire de quelques mineurs qui se trouvaient en Alaska il y a plus d'un siècle. Ils avaient trouvé un filon d'or. Ils l'exploitaient et savaient que l'hiver et la neige allaient arriver, mais ils disaient « encore un peu plus, encore un peu plus » et ils ont attendu trop longtemps. Ils ont été enneigés dans leur petite cabane. Ils avaient extrait beaucoup d'or, mais ils n'avaient pas assez de provisions pour l'hiver. Ils sont donc tous morts dans cette cabane. Ils ont été découverts au printemps suivant. Personne ne savait où ils étaient, mais ils étaient là, dans leur cabane, morts avec un énorme sac d'or sur la table, et ils avaient laissé une note qui disait simplement « Nous avons attendu trop longtemps ». Mon ami, n'attendez pas pour mettre de l'ordre dans votre vie spirituelle. La Bible dit « Aujourd'hui est le jour du salut ». Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Faites appel à Jésus aujourd'hui. Faites-vous laver de vos péchés et commencez une nouvelle vie en lui.
Vous êtes épuisé? Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire? Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez 4 étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.